Profil, bonjour, Jacques Beaufort avec Kenneth White. Kenneth White, vous êtes né en Écosse en 1936, vous êtes poète, écrivain et surtout grand voyageur, vous avez publié plusieurs livres, dont le dernier, La Route Bleue, vous a valu le prix Médicis étranger. Alors d'abord, d'où vous vient ce goût du voyage? Cette passion même?
D'où ça me vient? Peut-être que c'est inscrit un peu dans la moelle de mes os, en ce sens que je crois que les Écossais, parce qu'effectivement je suis d'origine écossaise, ont toujours été des voyageurs, quelquefois par la force des choses, pour des raisons économiques, mais aussi par une sorte de goût de l'aventure, disons. Hein. Il y a un poète anglais du XVIIe siècle, je crois, qui a décrit les Écossais comme des diables ubiquitaires couverts de lambeaux de géographie. Alors, je crois que j'ai ça en moi. Il y avait un personnage européen auquel je me réfère de temps en temps. On connaissait l'Écossais voyageur en Europe au Moyen-Âge. On l'appelait le Scotus Vagans. Hein, l'Écossais errant. Donc il y a ça inscrit en moi, et je crois qu'en littérature, ça se traduit par des gens comme, enfin on peut penser à Stevenson, hein, qu'on trouve en Écosse, mais qu'on trouve aussi en Amérique, en France d'abord, en Amérique après, et ensuite dans les îles polynésiennes.
Hein. Mais il y a des voyageurs dans votre famille ?
Il n'y a pas de voyageurs dans ma famille, il y a une espèce de désir, une nostalgie des voyages. Hein. Mon père, par exemple, quand j'étais gosse, et je sais qu'il me parlait souvent de son désir de faire le tour du monde. Bon. Pour des raisons sociales et économiques, il n'a jamais eu le faire. Je suis né dans une famille ouvrière de Glasgow, donc une vie assez dure. Et il n'a jamais pu satisfaire ses besoins. Mon grand-père était un voyageur, parce qu'il avait trouvé la combine. il n'avait pas beaucoup de possibilités de faire, autrement qu'en se faisant soldat. Alors, à chaque fois qu'il y avait une petite guerre quelque part, il s'engageait. Il s'engageait pour l'Afrique. Il jouait de la cornemuse. C'était un cornemuseur, et puis il aimait bien s'habiller d'une manière un peu... Enfin, c'était sa manière d'être un peu dandy, quoi. Hein. Alors, avec son kilt et sa cornemuse, on l'a trouvé en Afrique. En 14, on l'a trouvé en France. Hein. Là, il m'a raconté des histoires quand même de son voyage dans la boue française, ça c'était beaucoup moins drôle. Hein. Mais disons que c'était son seul moyen hein, de voyager un peu. Il a voyagé en Écosse, mon grand-père, parce qu'il avait commencé en adolescent par être un acteur ambulant, danseur et acteur.
Alors vous avez fait vos études à Glasgow, à Munich et à Paris. Pourquoi oui. Munich et Paris?
Moi, j'avais commencé à faire mes études à l'université, et puis je ruais un peu dans les brancards. J'étais connu comme un étudiant, comment dire, erratique, disons. Et après 2 ans d'études... Je commençais d'ailleurs à passer la plupart de mon temps dans la bibliothèque, où j'ai voyagé mentalement, et ça fait partie aussi du voyage tel que je comprends et tel que j'essaye de le pratiquer. Mais après 2 ans, mon prof d'allemand a dit, écoutez, il vaudrait mieux White, que vous vous écartiez un tout petit peu, autrement vous allez exploser, alors allez quelque part. Alors j'ai fait une demande pour avoir une bourse, et j'ai eu une Deutsche Akademische Austauschdienst, une bourse, pour une année dans une université allemande, et j'ai choisi Munich. Donc j'ai passé cette année à l'Université de Munich. Je dois dire que j'ai passé la plus grande partie de mon temps à errer dans les rues de Munich et dans les alentours. Et à passer pas mal de temps dans la bibliothèque et puis chez moi. Et chez moi, c'était, parce que j'avais pas beaucoup de sous, c'était une baraque en bois au bord de l'Isard où je lisais. Je lisais quoi? Je lisais la philosophie allemande, Heidegger, surtout Nietzsche, des romans russes, je m'appelle... là, dans le froid, avec mon pain et ma margarine, en train de lire des Brüder Karamazov, Dostoïevski en allemand, et puis la poésie chinoise. Hein, c'était à peu près ça. Alors après cette année-là, je suis rentré en Grande-Bretagne, pas plus amène, disons, vis-à-vis des cadres et de l'institution que je sentais un peu sclérosée, mais désireux quand même de terminer le cursus, ce que j'ai fait. Et à la fin, bon, j'avais ce que je voulais côté université, et à ce moment-là, il était question de continuer mes études quelque part. On posait la question, où est-ce que vous voulez aller? Et pour moi, il n'y avait pas de problème. C'était Paris.
Et pourquoi Paris? Et pourquoi la France? Car vous vivez pratiquement en France depuis une vingtaine d'années.
Ouais. Pourquoi la France? Bon, d'abord, j'avais fait des études d'anglais et de français à l'université. Pourquoi j'avais fait des études d'anglais, d'allemand et de français? On ne fait que repousser la question. Ben, c'est parce que très tôt, vers l'âge de 12 ans, je m'intéressais à ce pays. D'abord, je m'intéresse aux langues. Hein. Et j'ai écouté le français à la radio, et puis très tôt j'ai commencé à lire dans la littérature française. Mes premiers amours, mes tout premiers amours étaient Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer. C'était Victor Hugo, hein. Je ne renie pas d'ailleurs. Hein. Ensuite, c'était Rimbaud, mais enfin, au début, c'était Hugo. Donc, il y avait une attirance pour la littérature française, pour la langue française, et puis, peut-être que là aussi, quelque chose qu'on peut appeler atavique. Il y a toujours eu un rapport entre l'Écosse et la France, hein, et je ne sais pas si ça n'a pas joué un rôle inconsciemment, hein. Depuis le XIIIe siècle, par exemple, la France et l'Écosse étaient très, très, très proches. Dans la langue écossaise parlée, il y a des restes de mots français, par exemple, hein. Puis spirituellement très proche. Moi, je suis beaucoup plus chez moi en France et dans un milieu français, par exemple, qu'en Angleterre, Angleterre anglaise. Hein. En tant qu'Écossais, je suis beaucoup plus français et américain qu'anglais. Hein, c'est assez drôle. Hein. Mes premiers amours en littérature étaient continentales, allemandes ou françaises, et américaines. Hein, beaucoup plus qu'anglaises, sauf exception. Hein. Et les exceptions parmi les Anglais, c'était les Anglais qui n'avaient pas l'Angleterre. Cela dit, je n'ai pas une anglophobie galopante.
Vous vous êtes défini, Kenneth White, comme un clochard scribouillard, ou dans votre dernier livre, comme un nomade intellectuel. D'abord, un nomade intellectuel, c'est plus noble qu'un clochard scribouillard.
Oui, c'est-à-dire que je voulais sortir le clochard scribouillard est transcendantal. Je crois que ça remonte à 10 ans. Et effectivement, j'ai lancé de temps en temps des petites descriptions comme ça, parce que je voulais absolument sortir de l'image de l'auteur un peu empesé, si je puis dire. Hein. Je voulais qu'on sente que dans la littérature, il pouvait y avoir de la vie vécue, de l'existence, des réalités drues. Alors je voulais marquer le coup avec des phrases de ce genre, hein, pour remuer un peu les choses. Et ensuite, effectivement, j'ai intellectualisé ça, si vous voulez. Il y a toujours un côté mental dans mon voyage. C'est un voyage existentiel et intellectuel. Et le nomadisme intellectuel, là, j'ai commencé à parler de ça. Enfin, ça doit remonter à une dizaine d'années, parce que j'ai fini par faire ma thèse universitaire, ma thèse d'État française, sur le thème du nomadisme intellectuel. Le nomade intellectuel étant, pour moi, quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, disons, dans la civilisation occidentale et européenne, qui se sent mal à l'aise dans la culture et dans la civilisation, et qui nomadise, qui va vers d'autres cultures pour voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Non pas pour se convertir à quoi que ce soit, mais pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on a laissées de côté, nous. Et ensuite, il essaye d'étudier ça, c'est le côté intellectuel. Hein. Il nomadise pour explorer des ailleurs. Il intellectualise afin de trouver un contenu. Et il essaye de retransporter ça chez nous, afin d'ouvrir un champ de vie et de pensée nouveau. Et ma foi, c'est ça le but de tout mon travail. Hein. Ce n'est pas pour simplement ajouter un peu plus de littérature à la littérature, mais c'est vraiment pour ouvrir un champ de vie et de pensée. Et je ne sépare pas les deux. Hein. Je suis pour une vie pensée et une pensée vécue.
Mais est-ce que vous n'êtes pas resté un éternel étudiant? Et est-ce que vous ne resterez pas toute votre vie un éternel étudiant?
J'espère bien. J'espère ne jamais me figer dans une situation, une position. Je serai toujours étudiant dans ce sens-là. Et j'ai fait beaucoup de latin aussi, hein, parce que je n'ai pas négligé les langues classiques. Et le mot étudiant vient d'un mot latin, qui studere, qui veut dire avoir envie. Enfin, j'espère que j'aurai toujours envie, dans les 70 ans ou 80 ans qui me seront départis, d'avoir envie de vivre plus, de penser mieux, d'éclaircir ma vie, et ma foi, si ça intéresse d'autres gens, d'ouvrir un espace où d'autres gens peuvent se sentir un peu plus vivants, un peu plus intelligents, disons ça.
Donc le voyage, c'est un moyen d'apprendre, c'est un moyen aussi de mieux se connaître soi.
Le voyage lui-même n'est pas tellement un moyen d'apprendre, à mon avis. Hein. Je crois que, par exemple, si on veut connaître la culture asiatique, la pensée orientale, qui est une des choses qui m'a très, très intéressé. On peut rester à Glasgow, à Genève, à Paris pour le faire. Au contraire, les textes sont là. Hein, on a accès aux textes. Donc, du point de vue de la pensée, du point de vue de l'apprendre des choses, autant rester chez soi. Par exemple, pendant des années, tout en étudiant, par exemple, le bouddhisme extrêmement oriental, il ne me venait pas à l'idée d'aller au Japon. De même que, par exemple, un Japon qui s'intéresse à la culture française, il fait mieux de rester à Tokyo et lire Montaigne. Il ne va pas rencontrer des Montaignes à chaque coin de rue en venant à Paris, par exemple. Donc, pour étudier, pour apprendre, autant rester chez soi. Le voyage m'intéresse plutôt sur un autre plan. D'abord, j'ai une espèce d'amour du monde, quoi. Il y a un amour de la pensée, mais il y a aussi un amour du monde. Et dans le voyage, on s'expose au monde, hein, on s'expose aux images, aux sensations. Moi, j'aime bien vivre avec mes cinq sens, Et à partir de ces 5 sens, c'est éventuellement un 6e. Hein, mais disons, donc c'est pour des raisons sensuelles plutôt que je voyage. Et puis en même temps aussi, il y a l'identité. Je ne cherche pas mon identité, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une espèce de débarrassement, de désencombrement. Hein. Vous êtes en train de vous exposer au monde et puis vous sortez de votre identité figée. C'est en restant chez soi, par exemple, dans une famille, dans une culture, entouré des gens qui ont leur idée sur vous, que vous êtes coincé. Alors en voyageant, surtout en voyageant seul, on élargit son identité, on respire d'une manière plus souple. On est aux dimensions du monde. On n'est pas sa petite personnalité figée. On ne voyage pas avec sa carte d'identité psychologique, si je puis dire. Hein.
C'est important de voyager seul.
Oui, je crois. Parce que là, le voyage à deux est très agréable aussi, mais c'est autre chose. Hein. Voyager seul, justement... on évite... on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, par exemple. On suit son intuition, on suit son élan. Hein. Et si on se casse la gueule, et ça arrive dans le voyage, hein, il y a des moments d'ennui, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis il y a des difficultés. Mais on les affronte seuls et c'est mieux. Quand on est deux, on peut se bouffer le nez. Et là, c'est pas la peine de se bouffer le nez à soi. On attend et on repart. Donc, voyager seul, oui. Je crois que c'est dans ce but-là. Hein, je crois qu'il faut voyager seul. Et voyager assez rapidement aussi. Hein. Moi, j'aime bien quand je voyage, par exemple, parce que c'est une sorte... ça n'a rien à voir avec le tourisme, ça n'a rien à voir avec la bougeotte. Hein. C'est une sorte d'assaise, c'est une pratique. Hein, c'est vraiment une pratique mentale. C'est essayer de faire... non, pas de faire de grands exploits non plus. Hein, je ne suis pas le type qui s'étargue d'avoir fait 10 000 km. Je m'en fous royalement. Hein. C'est des courtes étapes, variées. Par exemple, si un jour j'ai fait de l'autostop et j'ai rencontré des gens, ben, le lendemain, j'aimerais bien me promener seul autour d'un lac, par exemple. Hein. Ou bien si un jour j'ai parlé avec un chasseur indien, le lendemain, j'aimerais parler avec un ingénieur. Hein. Que ce soit le plus varié possible, hein, des courtes étapes variées.
Mais c'est important de rencontrer les autres.
C'est pas le plus important, mais dans le voyage, moi, je n'évite rien. Le principe, c'est de ne rien éviter et de ne rien refuser. Ça a offusqué d'ailleurs beaucoup de gens, par exemple, dans mon voyage asiatique, le visage du Vendès, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Cet intellectuel qu'on trouve dans les bouges à Bangkok, un jour il est dans les bouges à Bangkok, l'autre, le lendemain, il est dans un temple tout seul, l'autre, le troisième jour, il est vraiment sur le sommet d'une montagne. C'est pas possible, ça, il faut choisir. Mais non, non, et au contraire, je veux montrer qu'il faut passer par toute la gamme. Et au cours du chemin, on rencontre des gens. Par exemple, bon, le dernier voyage qui a mené un livre, c'était la Route Bleue, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'était la côte nord du Saint-Laurent. Alors, le long de cette côte-là, par la force des choses, on rencontre des Indiens, dans les réserves, la plupart du temps. On rencontre des chasseurs. Et on rencontre les gars de la compagnie des mines. Hein? Donc, je ne refuse absolument pas le contact et la conversation. Mais mon but est d'aller encore plus loin. Il y a des gens, par exemple... qui ont cru qu'un des thèmes de ce voyage, c'est de constater la misère des Indiens dans les réserves. Non, je constate ça, effectivement, je ne passe pas mon temps à me lamenter. Il y a des gens qui interprètent, par exemple, ce genre de démarche, ces rencontres et ces expériences. Ça doit être un type qui est allé chercher la sagesse amérindienne au nord, qui ne l'a pas trouvée et qui doit être déçu. Ça n'a rien à voir. C'est un schéma de pensée qui n'est pas le mien. Je ne suis pas un idéaliste déçu. Je ne suis pas un idéaliste du tout. Je suis une sorte de nihiliste fervent ou de sur-nihiliste fervent. Quoi. Je ne refuse aucune réalité. Je ne me fais pas d'illusions. Je n'ai aucun espoir, même. Hein. Je ne marche pas avec ces mots-là. J'ai un élan, une vie qui passe par toutes sortes de réalités et qui sait qu'il est possible d'arriver à une existence et à une intelligence du monde plus forte, plus claire qu'à peu près tout ce qu'on nous propose dans notre culture, littérature et civilisation.
Hein, vous y pensiez depuis longtemps, cette route bleue, Kenneth White, au Labrador
Ah oui, le Labrador... En tant qu'entité géographique, il y a un aspect géographique, justement, amour du monde, comme je disais dans ces livres, dans ces expériences. Le Labrador, je le connais depuis l'âge de 10 ans. Parce que, bon, à l'école, j'étais ce qu'on appelle... j'aime pas le terme bon élève, parce que ça fait gentil et mignon et discipliné. J'étais tout le contraire. Mais disons que j'étais un élève féroce, disons. Et donc j'ai beaucoup de prix. Et à un moment donné, quand j'avais 10, 11 ans, curieusement, il y avait beaucoup de livres qui tournaient autour du Nord. Hein, entre autres, deux, trois livres sur le Labrador. Donc, depuis 10 ans, ce pays me fascine. Un des pays restés les plus sauvages, les plus ouverts et géologiquement les plus nus du monde. Et puis, bien sûr, petit à petit, ça a pris aussi des dimensions, disons, intellectuelles. Le Labrador est devenu un champ de travail, quoi. C'est pas seulement un lieu à visiter, c'est aussi un espace où évoluer, hein. Et c'est aussi un champ de travail. Labrador, par exemple, si je décompose un peu le mot, on peut y trouver le mot laborare et adorare. Donc, Labrador, pour moi, c'est une adoration du monde dans ce qu'il a de plus physique et de plus immédiat. Et en même temps, c'est un champ où je me travaille, où je travaille des choses afin d'arriver à cet éclaircissement, à cette lumière dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est le côté bleu de la route bleue. Hein. Ça, c'est le côté intellectuel, voire mystique du voyage. Il y a toujours une autre dimension. Ce n'est pas des livres de voyage, en fait, au sens normal du mot. Ce sont des livres d'exploration, et je dirais même, pour utiliser un grand mot, d'initiation sans en avoir l'air.
Oui, d'exploration intérieure, vous voulez dire.
Non, exploration. Parce qu'à la limite, pour moi, il n'y a aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est une des divisions dont nous souffrons. C'est une des maladies de notre culture. Qu'il y ait l'extérieur, justement, qui est aliénant, et alors on se tourne vers soi. Il y a une espèce de névrose de l'intérieur, quoi. Une très grande partie de notre littérature, d'ailleurs, se sentant aliéné dans l'extérieur, se tourne vers l'intérieur. Non, moi j'essaye de donner une expérience du monde, et là l'identité de la personne n'est pas plus intérieure qu'extérieure. Hein? C'est ce que j'ai appris ça, entre autres, dans le bouddhisme zen, par exemple. Si l'élève pose la question au maître, qui suis-je, qu'est-ce que je suis, dis-moi qui je suis, il dit, tiens, regarde cet arbre, regarde cet oiseau, regarde cette vague qui se brise, hein? Tu es cela. Ça c'est une des phrases des Upanishads, tu es cela, ça c'est fondamental. Et je dirais que je n'aurais pas perdu mon temps si j'ai passé 20 ans à approfondir une seule phrase, trois mots, tu es cela. D'ailleurs, en psychologie aujourd'hui en Occident, on commence à nous rendre compte de ce genre de choses. C'est pour ça que je me passionne aussi pour ces années de la fin du XXe siècle en Occident, parce qu'il y a une espèce de flottement d'ouverture. Hein, il y a quelque chose de formidable qui, potentiellement, est en train de se passer. Et j'aimerais croire que mes livres soient, disons, dans ce champ, au centre de ce champ d'énergie qui est en train de s'ouvrir.
Mais comment voyez-vous justement ces années à venir, ces 15 dernières années de notre millénaire?
Moi, je ne fais pas de prospective ni de futurologie. Hein. J'essaye justement de vivre ma vie la plus pleinement possible, et coûte que coûte, malgré tout, on m'a demandé l'autre jour quelle est ma devise, je dis malgré tout. Et, alors, sans me faire aucune illusion et sans voir des lendemains qui chantent ou des horizons roses, je m'occuperai de ma vie tant que je pourrai le faire, et je crois que, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte qu'un tas de cadres, un tas de systèmes sont sclérosés, sont en train de se désagréger, et il y a un espace qui s'ouvre. Il s'agit d'essayer de l'articuler, de trouver les références et l'articulation de cet espace. Il y a un travail culturel, au sens profond et fort du mot, hein, qui n'écoure pas les rues, hein, parce que souvent, le mot culture couvre un tas de choses qui, à mon avis, ne sont pas très intéressantes. Mais là, culture au sens profond et radical du mot. Donc, ce que je verrai dans ces dernières années du XXe siècle, c'est à la fois l'élargissement, l'agrandissement de cet espace et son approfondissement. Et je parle là pour beaucoup plus de gens qu'on ne croirait. Hein.
Mais quand vous parlez d'un espace, en fait, d'un espace qui s'ouvre, en général, dès qu'il y a un espace, on a tendance à vouloir vite le remplir.
Ah oui, c'est vrai.
Avec notamment la culture.
Justement, vous avez raison. Une des dernières petites explosions à laquelle j'ai participé, en France d'ailleurs, c'était le mouvement de 68, hein, qui est très complexe. Plus je l'étudie, plus je me rends compte qu'il était complexe, mais enfin... Un des mouvements les plus intéressants, un des élans les plus intéressants là-dedans, c'était une espèce d'énergie qui cherchait son espace. Mais tout de suite, bien sûr, comme vous dites, ça a été occulté, ou ça a été plutôt canalisé dans des politiques étroites. Hein. Donc le danger est toujours là, bien sûr. Dès que quelque chose s'ouvre, les catégories pleuvent. D'ailleurs, sur mon propre travail, il y a des gens qui veulent absolument le faire entrer dans des catégories, qui collent les étiquettes dessus, parce que ça les rassure. On colle une étiquette sur quelque chose, on se dit, ah tiens, je connais. Hein? Ça les évite, en quelque sorte, d'essayer de voir vraiment ce qui est là. Par exemple, vis-à-vis de mes livres, parce que ça représente quelque chose, bon, de nouveaux, des différents. Il y a une certaine catégorie des journalistes, pas tous heureusement, hein, mais qui disent ou qui pensent, ah oui, mais c'est pas pour le public, c'est différent, le public ne peut pas comprendre. Moi, j'ai jamais eu cette attitude vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ce qu'on appelle le public. Je vois les individus, et les individus sont capables de beaucoup plus que ce qu'une certaine structure culturelle moyenne, je dirais, les croit capables, hein, de faire et de comprendre. Nous sommes tous beaucoup plus que nous pensons, je dirais. Hein. Beaucoup plus. Il y a un être plus potentiel chez chacun.
Nous allons retrouver maintenant Jean-Luc Lehmann avec ses invités pour vous poser des questions. Kenneth White, Jean-Luc.
Bonjour. Aujourd'hui, Diane Gillard, qui est stagiaire journaliste, Diana Grandi, qui est étudiante en lettres, et Sandrine Keufer, qui est libraire. Kenneth White, bonjour.
Bonjour.
On va reparler un petit peu du voyage, si vous le voulez bien. Que vous a appris le voyage au niveau de votre comportement ?
Peut-être un sens de la relativité de toutes choses, que les cultures sont relatives, un respect donc de ce qui est ailleurs et une envie de connaître cette culture qui n'a pas été celle dans laquelle j'ai été élevé.
Est-ce que maintenant, lorsque vous êtes chez vous, si on peut parler de chez vous en parlant de vous, est-ce que vous êtes différent par rapport aux gens qui vous entourent?
Ce serait plutôt aux autres gens de dire cela. Mais je crois que ce que les gens sentent, parce qu'on a des échos et puis on arrive à sentir, enfin, à savoir ce que les gens pensent et sentent, je crois que, et je ne veux absolument pas me jeter des fleurs à quoi que ce soit, hein, il ne s'agit pas de ça, mais disons peut-être une certaine aisance, une certaine liberté, certaine souplesse. Je crois qu'il constate aussi une certaine volonté, parce que je ne suis pas le genre copain non plus, hein, gentil, hein, je peux même être méchant. une certaine distance vis-à-vis de l'état de choses autour de moi, l'état de culture et de socio-civilisationnel, si je puis dire. Mmh.
Je vous pose la question parce que j'étais très frappé hier soir par un monsieur d'un certain âge qui m'a arrêté dans la rue, je roulais en voiture, et qui m'a demandé de le ramener chez lui. Bon, j'allais sur la même route. Et il se trouve, on a discuté un petit peu, ce monsieur avait beaucoup voyagé, et c'est des choses qu'on fait rarement en Suisse, arrêter une voiture comme ça qui roule en demandant de bien vouloir faire un bout de route avec. Mmh. Et ce monsieur qui avait voyagé, ça m'a fait penser justement qu'en voyageant, il y avait peut-être une ouverture d'esprit différente et qu'on osait aborder les gens plus facilement.
Oui, ouverture d'esprit, c'est un terme que j'aime beaucoup, oui.
Jana.
Oui, donc on a dit que vous avez beaucoup voyagé, vous avez été en Extrême-Orient, au Labrador, etc. Pourquoi avoir choisi d'aller dans ces endroits-là plutôt qu'ailleurs, je ne sais pas, en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple ? Est-ce qu'il s'agit de choix délibérés ? Ou est-ce que ce sont les circonstances extérieures qui ont déterminé ces choix?
Oui, ok, c'est une bonne question. Il y a eu assez tôt une volonté de faire un périple, non pas précis et exact, mais enfin, qui serait grossièrement heure amérasiatique, je l'appelle. Hein. Si vous situez au pôle Nord, sur la carte, je vais dire, et vous vous rendez compte, par exemple, que l'Europe et l'Asie, l'Europe, c'est une sorte de promontoire de l'Asie. Et une fois que vous êtes en Asie, au nord-est de l'Asie, vous vous rendez compte que vous avez 25 km à faire pour entrer en Amérique. Donc il y a une espèce de conjonction. Et j'ai voulu faire ce périple d'abord en Europe, connaître un peu mieux, enfin avoir une sensation de l'Europe. Ça, c'est le livre Dérive. Ensuite, c'est l'Asie qui s'est présentée après, et un peu par des concours de circonstances. Moi, je vis beaucoup selon l'accidentel, beaucoup au hasard. Et à un moment donné... je disais tout à l'heure que je n'avais pas eu le propos délibéré d'aller en Asie, surtout pas étudier la pensée orientale. Ça, je l'ai fait à Paris, Munich et à Glasgow. Mais on m'avait invité à faire les dialogues d'un film. Je suis donc parti à Hong Kong et je me suis servi de Hong Kong comme plateforme pour aller ailleurs en Asie, en Thaïlande et Taïwan. Donc, il y avait un côté Asie que je voulais explorer aussi. Et ensuite, l'Amérique. Il est vrai que, jusqu'ici, l'Afrique a été à l'écart de mes explorations. C'est un peu pour des raisons de temps. Hein. L'Europe, l'Amérique et l'Asie, ça fait déjà pas mal déjà sur une assiette hein, pour quelqu'un. Cela dit, je suis en train de prendre contact en ce moment avec quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, quelqu'un qui a vécu des années en Afrique, qui a beaucoup étudié l'Afrique, qui a écrit une vingtaine de livres sur l'Afrique. Et ma foi, qui sait si un jour l'occasion se présente, il y aura une possibilité de faire un périple africain. Quant à l'Amérique du Sud, un de mes meilleurs amis en ce moment, c'est un Péruvien, un Quechua. Et ma foi, avec lui, je parle beaucoup et j'étudie le chamanisme sud-américain. Donc, il y a quand même des contacts avec ces pays, dont, dans mes livres, encore, je n'ai pas parlé. Mais en fait, ce dont je parle surtout dans mes livres, ce n'est pas tellement des pays que j'ai traversés, c'est d'un espace dont j'essaie de m'approcher. Et cet espace-là, qui est vécu et mental à la fois, mais qui n'est pas sur les cartes. Ça, c'est ce que j'appelle, dans mon vocabulaire, mystique ou mythique, le monde blanc. C'est ça le contenu véritable. C'est un espace qui n'est pas encore inscrit sur nos cartes mentales. Oui. Mais j'essaye de m'approcher de cet espace à travers des lieux et des espaces vécus.
Vous visez, vous l'avez dit tout à l'heure, à rompre avec cette division entre l'intérieur et l'extérieur, qui peut être une des caractéristiques de la pensée européenne. Vous dites quelque part dans une interview de rompre la division qui existe entre la science et la philosophie d'une part et la poésie d'autre part. Mm-hmm. Est-ce tout cela semble tendre, pour ce que j'en ai lu chez vous, semble tendre, du moins, vous a poussé à vous intéresser à la pensée orientale. Et moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du bouddhisme, du zen, parce que je n'en connais rien, je n'en connais que la vulgarisation qui a été faite par les hippies, qui semble plutôt une pensée molle, ce qui n'est pas le cas chez vous. Alors, pouvez-vous
Je vous remercie d'abord de préciser, effectivement, j'ai horreur de cette espèce de demi-approche un peu mou, gentillet et flasque, effectivement, qui est tout au plus gentillet, quoi, qui ne mène pas à grand-chose. Je dois vous dire que parler du bouddhisme zen en quelques minutes, c'est difficile. Depuis à peu près 7-8 ans, à Paris, j'ai un séminaire de recherche qui est consacré uniquement à ça, hein, avec des rencontres une fois par semaine. J'appelle ça Synthèse Orient-Occident. C'est destiné surtout à des étudiants qui ont envie de travailler dans ce domaine. On en a quelques heures chaque semaine sur ce sujet. Mais ce qui m'intéressait dans le bouddhisme, c'est justement, et dans la pensée asiatique en général, très rapidement, c'est effectivement qu'il n'y a pas cette division dont nous souffrons depuis, ma foi, 2000 ans chez nous, entre, par exemple, le corps et l'esprit, entre l'intérieur et l'extérieur. Nous vivons, je crois, une logique, hein, pour parler en termes intellectuels, mais très compréhensibles, nous vivons, je crois, sur une logique de la séparation, tandis que la pensée asiatique est une pensée de la... non pas de la synthèse, parce qu'ils n'ont pas analysé, mais c'est une pensée de la... du tout. Une pensée, ma foi... utilisons tout de suite un grand mot, une conscience cosmique. Hein? Et je crois qu'aujourd'hui, en Occident, nous nous rendons compte que nous avons trop divisé les choses, nous avons trop coupé les choses, et qu'il serait temps d'arriver à une espèce de sensation de la totalité. Première chose qui m'a intéressé dans la pensée asiatique, et ensuite, je me suis intéressé au fait que dans le bouddhisme, par exemple, le moi n'existe pas. Parce que nous, je crois qu'en Occident, nous avons tendance à être un peu enfermés dans le moi, et les seules sorties de notre moi que nous avons connues sont soit vers le social. Ça, c'est la pensée grecque aristotélicienne qui dit que l'homme est un animal politique, donc on sort de soi vers le social ou bien vers Dieu, une sortie transcendantale. Moi, je crois qu'il serait temps, peut-être, de nous rendre compte qu'il y a d'autres sorties possibles. Il y a la possibilité de ce que j'appellerais dans mon jargon, disons, un moi trait d'union monde. Ce que j'ai appris, peut-être, dans mes études, dans mes recherches, c'est peut-être cette notion de trait d'union. N'est-ce pas que la pensée et l'expérience vraiment du monde ne peut pas séparer. Séparer, ça peut être utilitaire, ça peut être utile dans l'immédiat, mais pour une expérience vraiment fondamentale du monde, on ne peut pas séparer. Et je crois qu'aujourd'hui en Occident, par exemple, les cloisonnements entre les domaines de recherche, qu'ils soient poétiques, philosophiques et scientifiques, sont en train de se désagréger. Il y a un champ qui s'ouvre là, qu'on peut appeler, ou qu'on pourra appeler bientôt peut-être, philosophico-poético-scientifique. Hein? C'est un physicien, par exemple, c'est un physicien occidental, qui dit, par exemple, ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est une écoute poétique de la nature. Si un scientifique avait dit des choses pareilles il y a 30 ans, et encore plus il y a 300 ans, on l'aurait enfermé. Aujourd'hui, il peut le dire.
Sandrine.
Kenneth White, vous parlez quelque part de vos affinités avec les Slaves.
Oui.
Et puis Dostoïevski.
Oui.
Ça m'intéresse de savoir si le monde slave vous paraît peut-être plus proche justement d'un monde originel.
J'ai beaucoup aimé effectivement la littérature russe. Un de mes premiers amours en littérature, c'était Gorki. Non pas le Gorki âgé, l'homme de parti et le porte-parole, mais le premier Gorki, celui qui a écrit un livre qui s'appelle « Par Russie » en russe, « À travers la Russie ». Et ça c'est le nomade. Ce que j'aime dans la Russie, et ce que j'aimais dans la vieille Russie, c'était ce qu'on appelle la Russie errante. Chez Gorki, on trouve par exemple des types qui ont fait, et je le cite, « des chemins des mille verstes ». Et chez Gorki, tout le monde va vers le Caucase. Et j'adore ces rencontres de deux solitaires sur le chemin des mille verstes en Russie, dans les livres de Gorki. De petites conversations sur le bord de la route. D'où tu es, camarade? De Vojnechensk. Et toi? De Snezhny Novgorod. Où tu vas? Vers le Caucase. Hein? Donc, il y a cette sensation de l'espace, effectivement, dans la littérature russe. Et aussi... chez Dostoïevski, alors tout à fait différent, hein. Là ce n'est pas le sentiment de l'espace, mais c'est le tourbillon, c'est le remue-ménage psychique. Hein. Et on sort de Dostoïevski soit fou, soit un peu comme le ciel après un orage. Hein. Pour moi, Dostoïevski, c'était vraiment l'orage psychique. Hein. Une espèce de psychothérapie en 300 pages. Mm-hmm.
Moi, je suis surtout intéressée à votre œuvre poétique. Vous intitulez une partie de votre recueil Terre de diamants, Errance. Errance qui devrait amener la connaissance de soi et une communion avec l'univers. Or, Saint Augustin dit qu'en cherchant à l'extérieur, en contemplant la montagne et les océans, on oublie de chercher à l'intérieur de soi-même. Et Lao Tse aussi, que je sais que vous avez lu, dit que, par exemple, sans franchir sa porte, on connaît l'univers, sans regarder par sa fenêtre, on aperçoit la voie du ciel. Plus on va loin, moins on connaît. Le saint connaît sans voyager, comprend sans regarder, accomplit sans agir. Mmh. Alors, comment concevez-vous la recherche de soi à travers l'errance?
Alors, il faut dire que j'assure toujours mes positions. et ce n'est pas seulement par tactique, c'est aussi par en pensée. J'ai toujours parlé des deux, j'ai toujours parlé de l'ermite et l'errant. Par exemple, moi je passe autant de temps, et encore plus, on a lancé la discussion aujourd'hui sur le voyage, mais je passe autant de temps... assis dans ma chambre en train d'essayer de penser, de méditer et de faire des petites promenades de 2, 3, 4 kilomètres dans les bois, sur les rivages, en contemplant le monde. Donc je me trouve tout à fait en concordance avec Lao Tse et avec des gens qui ont suivi le chemin de Lao Tse. Lao Tse d'ailleurs, qui était bibliothécaire aussi, pas mal roulé sa bosse sur le vers la fin de sa vie. Et ceux qui ont suivi sa voie mystique et intellectuelle, ont aussi parcouru les terrains. Par exemple, j'aime beaucoup, c'est un de mes grands amours en littérature aussi, le japonais Basho. Alors Basho sait très bien qu'on peut regarder la montagne dans sa tête, mais il aime bien aussi la regarder dans la réalité. C'est pour ça qu'il parcourt le Japon pendant des années. Avec Saint Augustin, qui dit qu'effectivement, c'est pas la peine de regarder la montagne, parce que comme ça tu vas... oublier ton intérieur. Là, je suis beaucoup moins d'accord, effectivement, parce que là, avec Saint Augustin, avec sa notion de péché originel, avec son antinaturalisme, qui est, à mon avis, un des grands malheurs que le christianisme nous a légué, là, je suis beaucoup, beaucoup plus en désaccord. Et j'aime beaucoup, on parlait tout à l'heure, de mes ancêtres écossais. Il y a un moine écossais, ou Scott, on ne sait pas s'il était écossais, irlandais, peu importe, ça tourne autour du 5e, 6e siècle, un peu avant, Pélage. Pélage était absolument en désaccord avec Saint Augustin parce qu'il disait que l'homme n'est pas victime du péché originel, il n'y a pas de péché originel, sa nature est bonne s'il arrive à la travailler. Hein, il y a un naturalisme celte, scoto-celte, qui me semble justement très très proche de la pensée asiatique, à l'encontre d'Augustin avec son obsession du péché originel. Ça dit, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Saint Augustin. Il avait une verdeur de vocabulaire, par exemple, qui était assez forte, et il a remué pas mal de choses. Mais, sur le plan, disons, métaphysique, je suis beaucoup plus près de Pélage et de Lao Tse que de Saint Augustin.
Sandrine.
Oui, Ken Fouette, vous critiquez beaucoup l'idéologie britannique.
Oui.
Et vous la qualifiez de brouillard ouaté. Vous ne pouvez pas la combattre. Alors, il semble que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'écrivains britanniques se sont justement exilés.
Oui.
Et il semble que ces écrivains sont souvent d'origine celtique.
C'est vrai. C'est vrai. Il y a une exception quand même. Je disais tout à l'heure que je n'avais pas une anglophobie galopante. Et c'est vrai, parce qu'il y a quand même un écrivain anglais qui m'est très proche et qui m'a beaucoup appris et qui m'a beaucoup inspiré, c'est D.H. Lawrence. Mais effectivement, il ne peut pas supporter cette espèce de platitude anglaise qui n'a pas toujours été l'apanage de l'Angleterre, loin de là. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup à une certaine littérature anglo-saxonne, et il y a beaucoup d'écrivains anglais et britanniques. Mais c'est vrai que ça commence au 19e siècle et ça s'accentue au 20e, surtout peut-être après la guerre. En Angleterre, il y a eu un aplatissement, il y a un rétrécissement, il y a en poésie une espèce de chose que j'appelle la poésie tondeuse des gazons, hein, ça ronronne. Il y a une pensée inexistante et il y a une espèce de rétrécissement de tout. Alors vis-à-vis de ça, effectivement, moi j'ai senti le besoin de faire mon paquet et d'autres écrivains. Surtout peut-être effectivement d'origine, venant des marges du pays, des marges celtiques, irlandais, écossais, gallois, ont senti le même besoin de faire leur paquet. L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est bien sûr James Joyce, qui critique l'Irlande, qui ne peut pas supporter l'Irlande, qui ne prend même pas la peine de critiquer l'Angleterre. C'est au-dessous de toute critique.
Oui, il n'y a pas que les Anglais qui souffrent d'un rétrécissement de l'action et de la pensée. Vous dites aussi, dans La Route Bleue, nous dormons en Europe, ça fait bien plus longtemps que trois siècles que nous dormons. Trois siècles, c'est pour les Indiens du Labrador.
Oui.
Bon, mais la solution, c'est pas de faire son paquet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire?
Non, si j'étais resté longtemps en Angleterre, pour prendre cet exemple, j'aurais passé beaucoup de ma vie et beaucoup de mon temps en réaction contre les stupidités, contre les étroitesses. J'ai trouvé un terrain d'action, pour moi, hein, et je crois pas que ce soit le cas seulement pour moi, en France, où, malgré tout, et vous avez raison, et je l'ai dit moi-même, effectivement, que ce n'est pas le paradis non plus.
Mais on dort moins en France?
Hein?
On dort moins en France? C'est moins rétréci en France qu'en Angleterre?
Ma foi, si vous avez l'expérience des pays, oui, incontestablement. Oui. C'est sûr. Il reste quand même, et malgré tout, et malgré tout ce qu'on peut dire, et je serais d'accord avec vous si vous faisiez une liste, une analyse, il y a quand même une effervescence intellectuelle. La preuve, une preuve très très concrète. Moi j'ai commencé par publier des livres, puisqu'on parle de littérature, en Angleterre. Au stade de mon quatrième manuscrit, j'ai présenté à l'éditeur, il m'a dit, bon, un tas de blablabla, oui, très très intéressant, mais il m'a dit, entre nous, ce manuscrit-là, il faut le mettre au frigo pendant 10 ans, et en attendant, vous me ficelez un petit roman, hein, hein. Et moi j'ai dit, parce que j'étais pur et dur, et j'espère que je suis resté, j'ai dit, écoutez, je ferai publier ce livre en France. Et il me dit, ah oui, mais la France, c'est un pays littéraire.
Et
ça reste quand même vrai.
Une dernière question, Kenneth White, qui rejoint un peu celle-là. Comment est-ce que vous choisissez les endroits dans lesquels vous écrivez?
Les endroits dans lesquels j'écris? Ah oui. Alors là, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, c'était après avoir fini mes études, je sentais que je voulais, non pas devenir écrivain, parce que ça fait statut, mais disons, commencer à vouloir vivre et penser d'une certaine manière et travailler d'une certaine manière, c'était Paris. Je me suis rendu compte assez vite que la grande ville n'était pas le lieu où j'aimais écrire. J'ai un besoin physique, un besoin sensoriel d'avoir des contacts avec des rivières qui coulent, avec le vent dans les arbres, avec des vins qui se brisent. En revenant en France, j'ai vécu dans les Pyrénées, parce que j'avais ce besoin de contact permanent avec la montagne, et puis avec le rivage qu'on trouve du côté des Landes. Et ensuite, depuis un certain temps, depuis quelques mois seulement, après la montagne, après l'ermitage de la montagne en quelque sorte, j'avais besoin de retrouver le rivage. Il y a toujours cette espèce de besoin d'un espace physique et qui s'est traduit tout de suite en termes mentaux. Hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de séparation. Mais il y a le besoin pour bien écrire, pour bien me sentir dans ma peau, pour ne pas écrire seulement à partir de maladies ou de misère ou de malheur ou d'une étroitesse, mais pour écrire à partir au contraire d'un espace et d'une largesse avec une générosité. Là, j'ai besoin d'un espace physique le moins encombré possible, disons. Hein.
Parmi les lettres qui vous ont le plus touché, Kenneth White, vous avez choisi de nous lire maintenant une lettre d'André Breton. Alors, cette lettre date de 1965. Vous connaissiez André Breton à cette époque-là?
Non, personnellement. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré personnellement. J'aurais pu le faire sans doute après 65, mais il est mort, comme vous savez, l'année d'après. Je connaissais son œuvre, je connaissais ses livres. Parce qu'une des choses qui m'avait attiré à Paris, c'était justement le mouvement surréaliste en général.
Vous vous sentiez proche de ce mouvement surréaliste?
Oui, là, il faut nuancer un peu. Je me sentais très très proche de l'élan surréaliste, ce que voulait faire le surréalisme. Parce que le surréalisme, pour moi, voulait dépasser le jeu normal de la littérature. Enfin, le petit jeu pour entrer dans le grand jeu. Hein. Le surréalisme était dans la lignée, dans le sillage de quelqu'un comme Rimbaud, par exemple, qui vraiment avait une attitude radicale vis-à-vis de la vie, de la société, de la culture, de la littérature, et qui voulait sortir des cadres devenus un peu étroits. Alors, ils étaient dans ce sillage, donc ils ne pouvaient que m'intéresser. C'était aussi un mouvement international. Hein. Les nations ont tendance à se replier sur elles-mêmes. Hein. Chaque nation s'occupe de sa littérature nationale. Tandis que, de plus en plus, et dès le début d'ailleurs, moi je considère les choses d'une manière beaucoup plus archipélagique. Quoi. J'essaie de voir le monde entier et de voir qu'il y a des îlots, des foyers d'énergie existentielle et intellectuelle partout et dans tous les temps. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de puiser là, non pas de se confiner à la littérature contemporaine nationale. Donc, et le surréalisme disait cela. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'écrivains détestent le surréalisme. Et c'est pour ça que beaucoup de gens détestent André Breton d'ailleurs. C'est pour ça qu'on lui colle les étiquettes, le pape du surréalisme, on sort régulièrement ses clichés. Alors la lettre que je vais lire, je crois, montre qu'il n'était pas le pape. Si de temps en temps il pouvait avoir des attitudes fermes, voire autocrates, hein, c'est fort possible. Je crois qu'il faut retenir que des écrivains de grande envergure comme Antonin Artaud, comme René Daumal, vraiment des écrivains qui voulaient vraiment ouvrir un espace et qui avaient une énergie formidable, ont toujours respecté André Breton, même s'ils avaient des divergences de point de vue. Alors voilà ce que j'ai aimé dans le surréalisme. J'ai jamais été surréaliste. En quelque sorte, j'ai essayé de continuer l'élan surréaliste, avoir les exigences surréalistes, mais en laissant de côté certaines pratiques surréalistes qui ne me semblent pas absolument nécessaires et certaines accointances qui étaient dues à des circonstances historiques qui ne sont pas les miennes. Hein? Mais je garde une reconnaissance justement à cette conflagration, hein? À cette lumière, à ce feu qui était le surréalisme et André Breton en particulier.
Et c'est pourquoi vous avez choisi cette lettre d'André Breton.
Très belle lettre, je pense. Paris le 10 janvier 1965. Cher Kenneth White, vous savez peut-être comme j'aime les beaux concours des circonstances. Jeudi soir, attablé comme de coutume avec les amis au fond de ce café des Halles à l'enseigne de la promenade de Vénus, j'avais, la revue en main, longuement insisté sur le haut accent de nouveauté qui me frappait dans cette à la lisière du monde. Maurice Nadeau, avait montré grand discernement et même clairvoyance en donnant à ce texte en tête du numéro. Depuis lors, plusieurs de ceux qui m'avaient entendu ce soir-là se sont procurés les lettres nouvelles et, comme je pouvais m'y attendre, ont réagi de la même manière que moi. Mais le plus beau, j'y reviens, c'est que votre lettre m'est parvenue le lendemain vendredi soir au premier courrier. Puis hier samedi, ça a été le livre, dont je suis loin encore d'avoir épuisé les pouvoirs. Il demande à être goûté très patiemment, ce que j'avais éprouvé pour la poésie des Trackle en tout dernier lieu. Comment faut-il vous voir dans ce Glasgow de vos fournaises? Peut-on espérer au moins que c'est tout librement de votre seul choix que vous y êtes revenu? Si Saint-Cyr que la propice est une fois dérobée à nous comme lieu de possible rencontre, qu'à cela ne tienne. Il ne manque pas de bancs dans le monde, nous ayons chance de nous trouver côte à côte et de nous entendre presque sans parler, comme une fois pour toutes, ils ont pris la prose, ils ont pris la pause à l'ouest. Je suis, cher Kenneth White, votre ami André Breton.
Il y a aussi un post-scriptum dans lequel il dit qu'il aimerait publier un texte de vous dans la brèche Action surréaliste. Alors, dans cette lettre, il y a une allusion à un livre et à une revue aussi, et à un texte intitulé « À la lisière du monde ». Alors, il faut peut-être que vous nous donniez quand même quelques explications.
Voilà. J'avais commencé à écrire à Paris et un premier petit livre a été publié par les étudiants de la Sorbonne. Ce livre est tombé dans les mains d'un des meilleurs traducteurs de l'anglais, Pierre Léris. Et lui, il voulait absolument en faire un livre. Et il m'a demandé, c'était des poèmes, et il m'a demandé d'écrire de la prose. J'écris autant de prose que de poésie, d'ailleurs, je précise. Il m'avait demandé d'écrire une espèce de texte, une centaine de pages, sur ce qu'il appelait, lui, ma mythologie personnelle. Alors j'avais fait ça en trois chapitres, les collines matricielles, les fournaises de la ville, c'est à ça que s'est référé Breton dans la lettre, c'est Glasgow de vos fournaises, et le monde blanc. Ce livre a paru au Mercure de France. Mais juste avant la parution du livre, Maurice Nadeau avait voulu publier un texte à la lisière du monde dans les lettres nouvelles de janvier-février 1965. Et sans que moi j'intervienne, Breton, qui était justement à l'affût de ce qu'il appelait des accents de nouveauté, avait donc dû acheter un exemplaire des lettres nouvelles. Et comme il faisait dans ces cafés qu'il affectionnait, ces cafés d'ailleurs qu'il choisissait la plupart du temps pour leur nom, la promenade des Vénus, il réunissait donc ses amis, ses collaborateurs, ses compagnons de route autour de lui, et il a commenté ce texte-là à la lisière du monde, donc des lettres nouvelles. Et puis, comme il disait, il y a eu le concours de circonstances, parce que moi, à ce moment-là, j'ai voulu lui envoyer ce livre en toute candeur, paru au Mercure de France.
Je pense que l'on doit souvent vous dire quel est soi, et sans comprendre d'ailleurs peut-être très bien ce que vous écrivez, quelle chance vous avez de voyager, quelle chance, toutes ces rencontres, surtout qu'il y a parfois certaines rencontres féminines. Moi je me souviens très bien qu'il y en avait beaucoup dans un de vos précédents livres, Le visage du vent d'Est, que Jean-Charles Simon a lu avec beaucoup d'envie, vous allez voir, on l'écoute.
Cher monsieur White, voilà, je dois l'avouer, je risque gros en l'avouant, il m'arrive de regarder une télévision étrangère. Oui, je sais, pour quelqu'un comme moi, si grassement payé par la radio-télévision suisse-romande, c'est pas joli joli. Je sais, mais je n'arrive pas à maîtriser cette pulsion. Oui, surtout les soirs de pleine lune. Je commence à être agité, je respire mal, une sueur glacée cascade dans mon dos, mes tempes battent, mes mains tremblent. Je résiste, je vous jure que je résiste, de toutes mes forces. Et puis brusquement, je craque et je m'appelle 10 minutes Christine O'Crête. Non, ne me jugez pas trop sévèrement, monsieur White. Vous-même, l'Écossais, il vous est bien arrivé d'écouter la radio anglaise, non? Enfin, bref, si je vous raconte tout ça, monsieur White, c'est parce que, en quelque sorte, c'est à cause de cette infirmité que j'ai eu la chance de faire votre connaissance. Oui, c'était un vendredi soir, et nous regardions, ma femme et moi, calfeutrés dans notre salon, le son au minimum, afin d'éviter que les voisins ne nous dénoncent, l'émission de Bernard P. Permettez-moi de n'être pas plus précis, sur Antenne 2, émission dont vous étiez l'invité. Nous commencions à nous assoupir lorsque vous prîtes la parole. Ma femme sursauta brusquement, me pinça le bras et me dit d'une voix rauque « Tu vois, ce Kenneth White, je serais très volontiers passagère dans un de ses voyages initiatiques. » J'avoue que je n'avais pas les mêmes raisons d'être aussi ému. Mais je fis comme d'habitude confiance en son jugement, que j'estime infaillible. La preuve, c'est qu'elle m'a épousé. Puis, bien des semaines plus tard, je lus votre merveilleux ouvrage intitulé « Le visage du vent d'Est ». Et je m'aperçus que l'effet que vous aviez provoqué sur ma femme était loin d'être un accident, et que votre charme agissait aussi beaucoup sur les jeunes Asiatiques. Alors, voilà, monsieur White, j'ai un petit service à vous demander. Avec la société des pompiers volontaires de mon village, nous avons une petite cagnotte, oui, réalisée avec les bénéfices dans l'auto. Et nous avons le projet d'effectuer un petit voyage en Extrême-Orient, Bangkok, Hong Kong, Mani ou Formose, enfin, bref, dans ces hauts lieux culturels que vous avez si bien décrits, monsieur White. Alors, étant donné vos expériences, vous serait-il possible de nous donner quelques adresses?
Alors, quelle est-ce, White? C'est une lettre boutade, bien sûr.
Elle est très bonne, d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est pas mon genre de donner de bonnes adresses. Hein, c'est pas mon propos, hein, comme notre ami le sait très bien. Et s'il y a eu des rencontres le long de ces routes, des rencontres d'ailleurs candides, je dirais.
Hein, agréables aussi.
Agréables, bien sûr. Mon propos n'est pas de collectionner des aventures, ni de venir ensuite parler aux copains de mes aventures salaces en Asie. Hein. Je déteste ce genre de conversation. Je déteste ce genre de personnage. Hein. Mais comme je disais tout à l'heure, dans ces voyages, je n'évite rien. Il y a une ouverture et il y a effectivement des espèces de, j'utilisais un terme asiatique, des dakini, c'est-à-dire des initiatrices. On aurait dit en Occident dans le temps des muses, hein, mais on n'ose plus bien sûr utiliser ce mot, le long du chemin. Comme dans le vieux poème grec de Parménide, et des jeunes filles me saluaient tout le long de la route.
Vous pensez à ceux que vous laissez derrière vous quand vous partez comme cela?
Mais est-ce qu'elle pense à ce fait qu'elle m'en laisse? C'est réciproque, je veux dire. Ce ne sont pas des... Comment dire? Ce n'est pas comme... quelqu'un qui a fait ça de la manière que je déteste, c'est l'outil. N'est-ce pas? En semant sa route et en s'entarguant de jeunes japonaises délaissées qui l'espèrent en train de se lamenter sur le fait qu'ils soient absents. Moi, ce n'est pas du tout cela. C'est plutôt une fulgurance instantanée. Et c'est tout. Hein? Comme un éclair dans le ciel.
Merci, Kenneth Wilde. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Route Bleue, aux éditions Grasset. Et c'était Profil, avec la collaboration de Jean-Luc Lehmann, Jean-Charles Simon, Barbara Balmer, Marie-Jo Hoffmann et René Pache. À demain, 14h, avec Michel Manceau. Et si vous voulez des cassettes de l'émission, eh bien, vous pouvez m'écrire à la Radio Suisse Romande à Genève.